Chapitre 3. Madeleine. Après la séance photo, elle se sent épuisée. Elle essaie tant bien que mal de dissimuler sa fatigue. Elle sait qu'elle est en liberté surveillée. Ils sont tous là, autour d'elle, à guetter. Ses gardiens serviles et vigilants. Ses enfants. Depuis un quart d'heure, Marie-Claire ne cesse de répéter « Maman, je vous avais bien dit que ça n'était pas prudent d'assister à la messe. Ça vous a énormément fatiguée. Vous n'êtes plus en état. » Marie-Claire parle comme si la fatigue de sa mère pesait douloureusement sur sa propre chair, comme si, en voulant absolument assister à la cérémonie, sa mère avait commis une erreur considérable et peut-être fatale. Si cette pauvre Marie-Claire avait une voix moins aiguë, peut-être que Madeleine arriverait à la supporter. À la fin, n'y tenant plus, elle déclare assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre
« Ma chérie, si tu voulais bien te taire, je serais sans doute beaucoup moins fatiguée !»
Le menton de Marie-Claire se met à trembler. L'émotion voile ses grands yeux bleus et fait monter sa voix dans les aigus.
« Mais maman, comment pouvez-vous, moi qui ne pense qu'à votre bien ?»
Et la voilà qui tourne les talons et s'éloigne en courant pour essuyer discrètement quelques larmes. Madeleine soupire, satisfaite. « Ma pauvre chérie, vas-y, mouche-toi. Prends bien le temps de te remettre. C'est toujours ça de gagner. » Catherine intervient.
« Maman, vous êtes fatiguée. Il faut que vous alliez reprendre des forces avant le dîner. Je vous accompagne dans votre chambre. »
« Mais qu'est-ce que vous avez tous à me répéter que je suis fatiguée ?»
Elle a beau protester, elle cède cette fois-ci. Elle accepte le bras de sa fille et remonte avec elle la belle allée bordée de rosiers éclatants. Catherine murmure. Maintenant que vous avez fait pleurer Marie-Claire, j'imagine que vous arriverez plus facilement à trouver le sommeil. Madeleine esquisse un sourire et se laisse guider sans un mot vers sa chambre. Ses enfants ne veulent plus qu'elle conduise. Ils disent d'un air scandalisé «
Maman, vous allez finir par vous tuer ou par tuer quelqu'un !»
Ils lui ont confisqué les clés de sa vieille Clio. Toujours leur insupportable manie de tout monter en épingle, sa dégénérescence maculaire et le reste. Il ne faut pas exagérer. Sa vision périphérique reste très correcte et elle est parfaitement capable de conduire sur de petites routes à faible trafic. La vérité, c'est que ça leur fait plaisir de la réduire à l'état d'assistée. Ils se sont ligués contre elle pour la torturer. Elle en a assez d'être traitée comme une petite vieille et transportée comme un paquet. D'ailleurs, elle n'a pas confiance lorsque c'est un autre qui tient le volant. C'est pour ça qu'elle a voulu rester ici cette nuit. Personne n'aura à la reconduire au beau milieu de la soirée. Et puis, elle sera bien plus tranquille. Elle pourra monter se coucher quand elle voudra et rentrera demain matin avec Hélène et Alexandre. Elle a exigé une chambre avec vue sur le parc. Isabelle et Marie-Claire ont protesté.
« Mais maman, vous n'y pensez pas! Vous allez être dérangée par le bruit de la fête !»
Mais elle n'a pas voulu en démordre. Cette fête, c'est peut-être bien la dernière. Tant mieux si elle entend les rires et la musique. Ce sera presque comme si elle était restée au milieu d'eux et avait assisté jusqu'au bout au mariage de sa petite Bérangère. Une fois dans la chambre, elle s'assied sur le lit. Son cœur bat plus vite qu'elle ne voudrait. Elle fait de gros efforts pour respirer le plus doucement possible. Catherine demande
« Voulez-vous que je tire les volets ?»«
Non, la lumière ne me dérange pas. »
« Je vais laisser la fenêtre ouverte pour que vous n'ayez pas trop chaud. »«
C'est ça. »
« Marie-Claire a défait votre valise. »«
Mais de quoi se mêle-t-elle »
lance-t-elle d'un ton agacé.
« Est-ce que je lui ai demandé de fouiller dans mes bagages ?»
Catherine poursuit, imperturbable.
« Elle a mis vos affaires de toilette dans la salle de bain et posé votre chemise de nuit sur le dossier du fauteuil. »
Comme si je n'étais pas capable de me débrouiller toute seule. Le jour où cette pauvre chérie se décidera à s'occuper de ses affaires, elle nous rendra à tous un grand service.
Catherine demeure impassible.
Maman,
Vous pourrez dire toutes les horreurs que vous voudrez, vous n'arriverez pas à me faire sortir de mes gonds le jour du mariage de ma fille. » Catherine va et vient dans la chambre, change de place un bouquet de fleurs pour que Madeleine puisse le voir depuis son lit. Elle pose un verre d'eau fraîche sur la table de nuit et s'agenouille devant sa mère pour lui retirer ses chaussures. Puis, tout en lui soutenant les épaules, elle lui soulève les jambes, la fait lentement basculer sur le lit. Ses gestes sont précis, doux et fermes à la fois. « Voulez-vous que je rajoute un oreiller ?»«
Non, ça ira. J'aimerais bien avoir mon livre à portée de main au cas où... »
Catherine fouille dans la valise, en sort un gros volume qu'elle dépose sur le coin de la table de nuit. Elle sourit en lisant le titre. « Le banquet de Platon. » « Je vois que vous avez des lectures très philosophiques, maman. »«
Tu te moques de moi, en plus ?»«
Pas du tout.
Je vous encourage, au contraire. » Catherine lui touche la joue et lui sourit. « Vous êtes très courageuse, maman. Ne vous fatiguez pas trop les yeux, c'est tout. » Dans le tiroir de la table de nuit, elle dépose la grosse loupe dont s'aide Madeleine pour ses lectures.
« Reposez-vous maintenant. Je reviendrai d'ici une heure voir si vous allez bien. »
« Je suis assez grande pour descendre toute seule quand j'en aurai envie. Quand allez-vous cesser de me traiter comme une impotente, tous autant que vous êtes ?»
Catherine a un petit rire. Elle se penche sur sa mère et murmure « Maman, ne vous faites pas plus méchante que vous n'êtes. » Puis elle lui serre brièvement la main avant de la quitter. Madeleine sourit en entendant la porte se fermer doucement. De tous ses enfants, Catherine est de loin la plus intelligente. Elle est la seule à ne pas se laisser impressionner par ses remarques acerbes et provocatrices. Les autres s'offusquent, protestent, larmoient. Ils montent sur leurs grands chevaux. Catherine, elle, demeure impassible. Elle se contente d'un sourire ironique et tendre. Elle est la seule à savoir lui résister. Allongée sur son lit, Madeleine fixe le mur tendu de toile de Jouy. Au centre de l'image vacille une tache noire. Des petits bergers roses dansent autour de la tache comme autour d'un puits sombre. Désormais, sa vie est un défilé de photographies brûlées en leur centre. Tout est clair, tout est net, sauf cette tache noire, atroce, inamovible, au milieu de l'image. C'est incurable. Elle ne parvient pas à s'y habituer. Elle découvre la pièce en promenant longuement les yeux sur chaque détail. Autour du cercle obscur, les images lui parviennent, distinctes mais incomplètes, comme dévorées par l'obscurité qui prolifère au centre. Il lui faut du temps pour reconstituer, à partir de fragments, une vision globale. Mais elle a tout le temps. Elle est vieille, elle n'a rien d'autre à faire. Elle entend la rumeur qui monte du parc, les rires des invités, les cris des enfants, le tintement des verres, un bourdonnement indistinct ponctué de coups d'éclat. Parfois, elle croit reconnaître une voix familière. Elle se sent rassurée, comme enveloppée par la chaleur vitale que lui portent ces bruits arrachés à la fête. Elle n'est pas triste, au contraire. Aujourd'hui, elle est même particulièrement heureuse. Ce n'est pas tous les jours qu'on marie sa petite fille préférée. Elle est soulagée d'être là. Ces derniers mois ont été difficiles. Elle s'est demandé un moment si elle tiendrait jusqu'au mariage. La petite est magnifique. On ne peut rêver plus jolie mariée. Une robe splendide. Pas une faute de goût. Ce garçon est très bien. Intelligent, drôle, amoureux. La petite a de la chance. Et elle la mérite bien. Dans le livre posé sur sa table de nuit, elle a lu une légende étrange. À l'origine, les êtres humains étaient doubles. Deux corps soudés dans une parfaite harmonie. Mais les dieux les ont un jour séparés. Depuis, chaque être passe sa vie à la recherche de son double exact, sa moitié perdue. Et lorsqu'il la retrouve, ils s'unissent d'un amour parfait et inaltérable. Mais la plupart des êtres humains errent par toute la terre sans jamais découvrir la moitié dont ils ont été séparés. Ou alors, ils se trompent en croyant la trouver, et l'on voit se former des attelages bancals et douloureux. Cette légende a touché Madeleine au cœur, comme si elle lui racontait sa propre histoire. Elle lui explique sa douleur, sa solitude affreuse, sa certitude d'être incomplète, amputée d'une part de soi. Toute sa vie, Madeleine n'a cessé de mesurer combien il est difficile de survivre en n'étant qu'une moitié d'être humain, un bout d'homme ou de femme, combien il est monstrueux d'être seule ou mal appareillée.
Aujourd'hui, elle est heureuse. Elle a l'impression que la petite a retrouvé la moitié d'elle-même qui s'était perdue, et c'est comme un miracle. Il fait chaud.
Elle entend bourdonner un insecte quelque part dans la chambre. Le battant de la fenêtre grince, agité par un souffle d'air. Elle ferme les yeux. La tache sombre se fond dans l'ombre derrière ses paupières.
Combien de temps vais-je tenir encore? Assez pour voir leur premier bébé? Le deuxième?
Elle sait qu'elle va devoir les abandonner en cours de route. Peut-être que le temps les abîmera. Peut-être qu'un jour ils se sépareront. Mais elle ne sera plus là. Elle ne le saura jamais. Pour elle, ils resteront un jeune couple parfait, figé dans un bonheur inaltérable. Le ciel est clair et bleu comme un ciel de paradis. Des cloches résonnent à ses oreilles. Elle entre dans une église de verre, immense et lumineuse. Elle porte une robe de mariée pareille à celle de Bérengère. Elle n'a jamais été aussi heureuse. Lentement, elle avance, souriante et légère. Les regards se tournent vers elle. Ils sont tous là, ses parents, ses amis d'enfance et de jeunesse, ses enfants, ses petits-enfants. Ils l'attendent devant l'autel. Ils lui tournent le dos, mais c'est lui, elle le sait. Elle aussi a rencontré très jeune l'autre partie d'elle-même, la moitié perdue au tout début du monde. Elle a eu cette chance. Sur son visage s'épanouit un sourire qu'elle ne peut ni ne veut réprimer. Elle sourit comme jamais. Elle continue de remonter l'allée. Elle est presque arrivée. Il se retourne. Il n'a pas changé. Il est aussi jeune et beau qu'autrefois.
C'est bien toi?
Oui, c'est moi. Qui veux-tu que ce soit?
Mais je te croyais mort.
C'est que tout le monde a essayé de te faire croire.
Tu n'as pas changé. J'étais attendue. Tu es toujours d'accord?
Elle va dire oui, mais s'aperçoit soudain que la robe de mariée flotte autour d'elle, comme un linceul de dentelle. Elle a honte de son visage ravagé, de son corps amaigri. Sa joie disparaît d'un coup et l'affolement gagne son cœur.
« Regarde ce que je suis devenue. Tu voudrais m'épouser dans l'état où je suis ?»
Il sourit, imperturbable.
« Je l'ai toujours voulu. Rappelle-toi ce qu'on disait. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Est-ce que les rides sur ton visage, est-ce qu'un peu plus ou un peu moins de chair sur ta poitrine peuvent y changer quelque chose ?» Je t'ai attendu si longtemps.
Moi, je n'ai pas pu t'attendre, tu sais. Je n'ai pas eu le choix.
Je sais, mais ça ne compte pas.
Non, ça n'a jamais compté.
L'important, c'est que nous nous soyons retrouvés.
Les yeux du jeune homme parcourent lentement le premier rang où sont assis les enfants de Madeleine. Il demande tout bas.
Lequel est-ce ?
Elle murmure.
Troisième en partant de la droite.
Il sourit, lui prend la main et la serre. Puis il se tourne vers l'autel, tandis que s'avance vers eux un prêtre sans visage. Alors les cloches se mettent à carillonner de plus belle. Leur vacarme devient insupportable. Catherine se précipite. Elle tire sur la robe de mariée, s'agrippe à sa mère en criant
« Je veux maman! Je veux maman! Je veux maman !»
La voûte transparente s'effondre dans un bruit de cristal brisé.
Maman, maman, réveillez-vous.
Catherine est là. Elle lui secoue doucement l'épaule en murmurant près de son oreille.
Maman, je suis venue vous chercher. Il est 8 heures. On s'apprête à passer à table.
J'ai hésité à vous réveiller, mais j'ai pensé que vous seriez contente de ne pas manquer le dîner.
Madeleine regarde les yeux fermés quelques instants encore avant de lui répondre.
Tu as bien fait.
Catherine l'aide à se redresser, puis elle s'assied à ses côtés au bord du lit pour lui donner le temps de reprendre ses esprits.
Je suis montée vous voir vers 7 heures, mais vous dormiez si bien. Vous deviez être épuisée, maman.
Madeleine ne répond pas. La lumière a changé depuis tout à l'heure. Elle est plus douce,
plus dorée et comme chargée de mélancolie. Madeleine reste silencieuse. Elle fixe la tache noire devant ses yeux, ce mal qui ne partira plus, comme la douleur qui, depuis 60 ans, s'attache à son existence. Elle sent la main de sa fille qui lui presse l'épaule. « Je vais vous recoiffer un peu, maman. Vous serez belle pour le dîner. » Elle ne répond rien. Elle se laisse faire, docilement. Catherine la coiffe, passe les doigts dans sa chevelure pour en arranger les plis. Au bout d'un long moment, elle demande « Maman, est-ce que vous vous sentez bien ?»«
Oui, ça va bien. C'est juste que j'ai fait un rêve. S'il te plaît, ne fais pas attention. »
Catherine ne dit rien. Elle continue de la coiffer. Madeleine ferme les yeux, pense à la douceur des doigts de sa fille dans ses cheveux et murmure
« Juste un rêve ».